C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui du rôle des référentiels polyniques sur la quantification des paléoclimats. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quantification des paléoclimats? Eh bien, tout simplement, ça veut dire essayer de produire des valeurs chiffrées pour certains paramètres climatiques, comme par exemple les températures ou les précipitations, pour certaines périodes clés du passé. Et on va voir que le rôle des référentiels est vraiment au cœur de cette recherche. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, on va reconstituer le climat de la Mongolie au cours de l'Holocène, au cours des derniers 5000 ans. Alors, à quoi ça sert de quantifier les paléoclimats? On a trois objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment d'essayer d'étudier, de comprendre la variabilité du climat à différentes échelles spatiales et temporelles, et également étudier les événements rapides et la répartition spatiale au cours du temps. Donc, vous avez ici l'exemple du dernier cycle climatique. J'espère que vous voyez bien ma souris. Donc, les derniers 130 000 ans, hein, de 0 à 130 000 ans. Donc, ça, c'est issu de la carotte de glace de North Grip, ici, qui est un petit peu notre référence, hein, notre Bible. Et donc, vous voyez que le climat a vraiment changé au cours du dernier cycle climatique, avec deux périodes plutôt chaudes, l'Émien et l'Holocène, et une période froide, donc la dernière glaciation, très contrastée, avec différents cycles et des événements abrupts. Donc, des événements abrupts très, très froids, que l'on a appelés événements de Heinrich, dont vous avez certainement entendu parler, hein, qui sont caractérisés par des débâcles massives d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Et donc, on est ici au niveau du dernier maximum glaciaire, puis vous voyez ici le réchauffement, la déglaciation, l'événement froid du Jungadrias et enfin l'Holocène. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre en fait quelle est la variabilité spatiale de ces événements. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes événements si on est en Méditerranée ou si on est en Scandinavie ou de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça va vraiment nous permettre de comprendre quels sont les mécanismes climatiques qui sont en jeu. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est essayer finalement de comparer en fait les simulations des modèles climatiques, les GCM, avec les valeurs climatiques estimées à partir des données, et ce, afin de valider les simulations de ces modèles climatiques. Enfin, le dernier objectif, c'est vraiment de comprendre quelles peuvent être les interactions entre changements climatiques, les hominidés et les sociétés humaines. Alors, pour quantifier les paléoclimats, on va utiliser différents indicateurs que l'on appelle proxy. Donc, je suis sûre que vous en connaissez beaucoup. Ce sont des archives climatiques naturelles. Donc, j'ai essayé de dresser la liste un petit peu sous forme de tableau. Donc, c'est une liste non exhaustive, pardon, et c'est vraiment les archives principales. Et vous pouvez voir que chacun de ces proxys possède une résolution temporelle propre et une période couverte qui est également très, très différente. Par exemple, les carottes de glace au Groenland, on peut remonter jusqu'à plus de 1 million d'années. Les données polyniques, elles aussi, elles possèdent une couverture régionale qui est très, très importante et on peut remonter jusqu'à plus de 3 millions d'années. Les chironomes, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des espèces de diptères, donc ça ressemble un petit peu à des moustiques. Et la capsule céphalique de la larve est directement corrélée à la température du mois le plus chaud. Vous avez ici l'exemple des spéléothèmes, donc les stalactites et les stalagmites, qui ont, eux, une très, très bonne résolution temporelle. Et enfin, je voulais vous parler du dernier indicateur proxy, qui sont les biomarqueurs moléculaires. Donc, vous avez plusieurs noms un petit peu barbares, comme les BRG-DGT, le TEX86, le BIT-index, également les alkénones pour le milieu marin. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est en plein essor, en plein développement. Peu d'applications jusqu'à maintenant, mais un vrai, vrai potentiel parce que c'est un paléothermomètre direct. Donc, la plupart de ces proxys nous fournissent des valeurs climatiques qualitatives qui vont ensuite pouvoir être chiffrées en appliquant différentes méthodes. Et il faut savoir que la plupart de ces méthodes sont basées sur un référentiel actuel. Donc, moi, je vais essentiellement vous parler du référentiel polynique, mais il faut savoir que c'est la même méthodologie si vous travaillez avec des chironomes, des insectes, des coléoptères ou également certains milieux marins. Donc, le principe pour quantifier les paléoclimats, il faut disposer à la fois de séquences fossiles, donc que vous avez ici, et un référentiel polynique actuel ici. Donc, les séquences polyniques fossiles, elles peuvent être issues à la fois de carottage fait en milieu marin ou en milieu terrestre, donc que vous avez ici, donc à la fois à partir de lacs ou de tourbières. Vous avez ici une photo du lac Ockrine qui est situé dans les Balkans, donc c'est un des plus anciens lacs d'Europe, et la séquence qui a été extraite couvre le dernier million d'années et même un petit peu plus. Donc, à partir de ces carottes, on va compter en fait les différents niveaux de cette carotte. On va déterminer les grains de pollen et on va construire un diagramme pollinique. Donc, vous avez ici qui est un diagramme pollinique qui a été fait à partir de la carotte ODP 976 par Nathalie Combourieux-Nebout. Et ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir, c'est que la végétation. Alors, vous avez ici l'exemple du dernier cycle climatique, hein, de 0 à 130 000 ans, et vous pouvez voir que la végétation répond très très bien au changement du climat, avec de la végétation stépique pour les périodes froides et le développement de la forêt, comme ici pour les périodes chaudes à l'Holocène ou aux dernières interglaciaires. Donc ça, c'était les données fossiles, mais on a besoin d'un référentiel pollinique actuel. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, enfin, j'espère, chaque petit point correspond à un spectre pollinique actuel. Et chacun de ces spectres polliniques actuels est associé à un climat. Donc, à partir des stations météo qui lui sont proches, on va calculer des paramètres climatiques. Donc, ce qui est vraiment très, très important, c'est que le référentiel actuel couvre en fait le plus grand nombre d'écosystèmes possibles. Donc à la fois de la forêt décidue ou de la forêt méditerranéenne jusqu'à la taïga. Et donc la qualité de ce référentiel actuel est vraiment très très importante. À partir de ce référentiel actuel, on va appliquer une méthode qu'on appelle une fonction de transfert. Donc je vous passe les différents détails de ces différentes méthodes. Mais on va appliquer plusieurs méthodes. Et on va aboutir à des reconstitutions climatiques. Donc, vous avez ici l'exemple du lac Ockrine, dont je vous parlais tout à l'heure, sur les derniers, sur les miens, donc la période du dernier interglaciaire. Alors, je vais vous parler d'une étude qu'on a fait vraiment très très récente avec un de mes étudiants qui s'appelle Lucas Dugardil. Donc c'est un papier qui vient juste d'être accepté dans Climate of the Past. Et donc cette étude vise à reconstituer le climat de la Mongolie au cours des derniers 5000 ans, donc vraiment l'Holocène récent. Et on a utilisé pour ça une double approche, à la fois des données polliniques et des biomarqueurs moléculaires. Donc ça, c'est vraiment une approche qui est très nouvelle, parce que souvent, vous avez soit des données polliniques, soit des biomarqueurs moléculaires, mais très, très rarement les deux. Donc, je vous invite à regarder ce papier si jamais vous êtes curieux. Donc, il est en cours de publication dans Climate of the Past. Et l'idée de ce papier, c'est vraiment de tester en fait le rôle du référentiel pollinique actuel sur les résultats de la quantification paléoclimatique. Donc pour ce faire, on a utilisé 4 référentiels polliniques actuels différents, du plus global au plus régional. Donc vous avez ici le plus global, donc chacun des points correspond à un spectre pollinique. Ce référentiel-là couvre 3000, donc c'est EAPDB, il couvre 3239 spectres. Donc vous avez ici les différents écosystèmes, hein, donc à la fois de la forêt décidue, mais également de la taïga ou de la toundra, et ainsi que des steppes. Donc c'est vraiment le plus global et le plus complet. Ensuite, on a testé un deuxième référentiel actuel qui lui est constitué uniquement de steppes froides. Donc ce sont les différents losanges que vous voyez ici. On en a 430. Le troisième, là, on se rapproche vraiment vers le global. Hein. Donc, c'est un zoom sur la Mongolie. Donc, on a pris tous les specs polyniques qui étaient accessibles qu'on avait pour la Mongolie. Donc, on en a 151. Et enfin, le dernier. Donc, vous voyez ici, hop, si je récupère ma souris, en vert clair. Donc, c'est le plus local. Il couvre donc tout le un transect du nord au sud de la Mongolie. Et on a 49 spectres. Ouais. Donc, si je zoome sur ce référentiel polynique-là, le plus local, donc on a fait différentes campagnes de terrain en 2016 et on a récupéré 49 spectres en tout, donc à la fois des données issues de mousses, mais également des échantillons de sol dans différentes régions de la Mongolie, donc le Khanty, donc vous avez ici le détail du transect, dans le Kangai, également dans le Gobi Altai et dans le désert de Gobi, mais aussi dans le haut sud du lac Baïkal. Donc on a 49 spectres poniques en tout, et c'est également sur ces spectres-là, enfin sur ces, pardon, sur ces échantillons-là, qu'on a étudié les biomarqueurs moléculaires. Donc on a un double référentiel, biomarqueurs moléculaires et données poliniques. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la Mongolie est extrêmement contrastée hein, d'un point de vue topographique, avec des zones à plutôt basse altitude, mais des hauts plateaux qui peuvent monter jusqu'à 3000 mètres. Et on retrouve un petit peu ce gradient dans les précipitations, avec une zone beaucoup plus arrosée au nord. Et plus on va vers le sud, plus on a des précipitations qui sont beaucoup plus faibles, avec un climat beaucoup plus aride dans le sud, vers le désert de Gobi. Et on a un gradient aussi extrêmement marqué sur les températures. Et donc, notre transect, nos différents transects, couvrent en fait tous ces écosystèmes, de la taïga vers le nord jusqu'au steppe désert, même ici. Donc, tous les écosystèmes, globalement, sont représentés dans ce jeu de données. Donc, ça, c'est le référentiel actuel. Mais pour reconstituer le climat, on a besoin de carottes fossiles. Et donc, on a utilisé deux carottes fossiles différentes. La carotte D3 et 6 qui est située ici dans l'Altaï et du Lycabog qui est située ici au sud de Baïkal. Alors, on aurait bien aimé utiliser une carotte dans le Kangai, mais en fait, il n'y en avait pas. Donc, on a vraiment utilisé ce qui était disponible. Et à ces deux carottes, on a appliqué plusieurs méthodes de reconstitution climatique des paléoclimats. Donc, il y en a des plus anciennes, il y en a des très très récentes qui sont basées sur du machine learning. Donc, moi, je vais vous montrer uniquement les résultats de deux méthodes différentes. Je pense que ce sera bien suffisant. Voilà. Donc, vous avez ici beaucoup de courbes. N'ayez pas peur, c'est normal et je ne vais pas les décrire dans le détail. Mais vous avez ici les résultats obtenus par Lucas pour la reconstitution du climat de la Mongolie au cours des derniers 5000 ans. Donc, à partir de la carotte de Dulika, au sud du lac Baïkal, et la carotte dans l'Altaï, vous avez ici les reconstitutions de température, de précipitation, donc au cours du temps, hein, du 0 jusqu'à 5000. Les différents événements que l'on a recensés sont également plotés, donc comme le petit âge glaciaire, le Warm Medieval Period ou l'événement 4,2. Et on a testé quatre donc référentiels actuels différents. La courbe bleue, c'est le plus global, donc les 3200 et quelques spectres. Et la courbe saumon, j'espère que vous la voyez bien ici, c'est le jeu de données le plus local. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on a peu de différences suivant la méthode utilisée. On a des courbes qui montrent une tendance vraiment similaire pour les deux carottes. Alors, on n'a pas les mêmes résultats, mais c'est normal parce que c'est des carottes qui sont différentes. Donc, finalement, la méthode importe peu. Mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que suivant le référentiel qu'on utilise, on va avoir des résultats relativement différents. Par exemple, avec le référentiel global, on obtient des températures beaucoup plus froides, de l'ordre de moins 4 à même moins 6 degrés pour l'Holocène. Donc, ça nous paraît vraiment peu probable. Par contre, avec le référentiel local, on obtient des résultats qui collent finalement, on retombe sur les valeurs actuelles. Et ça nous paraît beaucoup plus probable. Donc, en conclusion, Il existe de plus en plus d'approches multiméthodes, mais dans la plupart de ces approches, finalement, on ne discute pas le rôle du référentiel actuel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à creuser par rapport à ça. Et son incidence donc, sur certaines de ces méthodes est clairement sous-estimée. Donc les résultats nous ont montré qu'on n'obtient pas tout à fait le même signal climatique si on travaille avec des référentiels et des calibrations locales et régionales. Et enfin, moi, je milite vraiment pour des approches de type multiproxy, c'est-à-dire qu'on pourrait mêler au sein de la même carotte à la fois des données polliniques, des chironomes s'il y en a, des biomarqueurs moléculaires, etc. Et là, ça nous permettrait vraiment d'atteindre des reconstitutions climatiques le plus fiables possible. Voilà, je vous remercie.